Je vous ai dit tout à l'heure que André de Grasse, la finale, c'était autour de 9h50. Il y a un auditeur qui me corrige.
C'est 8h50.
C'est 8h50, ouais. Effectivement. Ouh, c'est bientôt. Donc, on est à 40 minutes donc de voir André de Grasse au 100 mètres. Puis pour avoir, tiens, une petite idée de ce qui se passe dans sa tête en ce moment, André de Grasse, à 40 minutes de sa course, on va aller tout de suite rejoindre Bruno Ouellet, qui est psychologue sportif, qui est au téléphone. Bonjour, M. Ouellet.
Oui, bonjour.
On va se parler de Simone Biles puis tout ça, de tout ce qui se passe aux Jeux de Tokyo et en général dans les prochaines minutes. Mais là, tiens, je vous pose la question, parce que vous êtes psychologue sportif. Selon vous, là, il fait quoi en ce moment, André de Grasse?
Oh, André de Grasse, là, pour moi, il est très certainement là, en pleine préparation. Il est dans sa bulle, il est concentré. Il ne doit pas avoir grand monde qui lui parle autour de lui, là. Donc, préparation, peut-être que ça inclut un petit élément un peu plus physique. C'est sûr qu'au niveau mental, peut-être qu'il va être en train de visualiser un petit peu, certainement en train de s'activer aussi. En même temps, hein, le 100 mètres, là, tu sais, c'est 9,8 secondes là, d'énergie totale. Donc, ce qu'il veut bien faire, là, c'est de bien gérer son énergie avant la course, demeurer confiant. Souvent, on va se parler mentalement juste avant une course. Hein. Donc, ça, c'est une des grandes stratégies là, pour se préparer.
Ouais.
C'est d'utiliser ce qu'on appelle du dialogue interne. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable, c'est-à-dire qu'on va aller vite. Rester concentré, là.
OK. Vous avez remarqué...
Et particulièrement, le 100 mètres aussi, c'est vraiment, pas une game, mais un jeu d'intimidation. Hein. Souvent, ils vont être tous ensemble, juste avant. Là. Donc, rester dans sa bulle, là, je pense que c'est très important.
Et c'est drôle que vous disiez ça, une game d'intimidation aussi un peu. Evelyne le faisait remarquer. Il y a de grâce un petit côté aussi plus arrogant un peu, qu'on voyait moins. On l'a vu avec Donovan Bailey, il faut dire, il y a quelques années. Là. Mais en général, on associait moins ça aux Canadiens, cette petite arrogance-là. On le voyait plus chez les Américains. Trouvez-vous que c'est une caractéristique maintenant qui est aussi caractéristique des Canadiens?
Je ne sais pas si c'est caractéristique des Canadiens. On le voit moins dans d'autres sports. Mais au 100 mètres, souvent, effectivement, ça prend un gros égo.
Ouais.
Un gros égo. Quelqu'un qui est très confiant peut se permettre d'être arrogant. Quelqu'un qui est moins confiant serait mieux de se concentrer sur ce qu'il y a à faire.
Ouais.
Parce que souvent, de trop se concentrer sur les autres pourrait vraiment le déconcentrer. Là.
Ouais.
Donc, on va peut-être plus ça au 100 mètres, mais je pense qu'on le voit beaucoup moins dans des sports à titre d'exemple, tu sais, comme le plongeon.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, parlant de plongeon, puis c'est vrai pour le plongeon, mais c'est vrai pour un paquet d'autres choses, vous avez remarqué, Bruno Ouellet, qu'il y a plusieurs athlètes qui, en entrevue, ont pleuré pendant leurs entrevues avec les médias, pendant leur entrevue. Ce qu'on ne voyait pas nécessairement avant. Ça vous dit quoi, ça, exactement?
Ben, en tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai l'impression que l'année a été difficile. Puis au-delà des performances au jeu, là, tu sais, je pense que ceux qui ont réussi à s'y rendre, ceux qui ont réussi à se préparer, ceux qui participent aux différents événements, ben c'est la pression était tellement grande là, pendant toute l'année. Là, si on pense juste au judo, là, tu sais, c'était est-ce qu'on va avoir accès à des plateaux d'entraînement? C'était vrai là, dans plusieurs autres sports aussi. Si on pense au triathlon ou une amélicrette là, tu sais, qui est partie pendant 6 mois. Water polo, là, tu sais, qui est parti pendant, je pense qu'ils sont partis pendant 93 jours là,
ouais.
avant de se rendre au Japon. Donc, je pense que l'effort est tellement grand qu'à la toute fin, là, il y a, quand c'est terminé, il y a un relâchement. Puis pour plusieurs, mais ça sort en larmes là, parce que l'année a été très, très difficile. Là. Donc, ce qui souligne, dans le fond, les accomplissements au-delà des performances et au-delà des médailles.
Est-ce que, puis là je parle du coq à l'âne parce qu'il y a tellement de sujets à parler, mais
oui.
est-ce que l'absence des spectateurs, selon vous, ça favorise l'aspect mental des athlètes? Est-ce que ça enlève du stress, peut-être, justement, de dire, ben coudonc, on est presque en entraînement?
Oui, ben, moi je pense plutôt que ça a un effet, ça peut avoir un effet plus positif d'un point de vue de la concentration,
ouais.
Mais d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue de l'activation, je pense que on se prive de quelque chose, tant d'un point de vue là, des athlètes, donc de ceux qui vont performer, que du spectacle. Puis ça fait plusieurs années, là, je pense que ça fait plus de 100 ans qu'on a démontré que la présence des autres, donc la présence des spectateurs, la présence des autres compétiteurs, va avoir un effet positif sur la performance, particulièrement pour les athlètes qui sont confiants. Donc, dans cette perspective-là, je pense que ça peut avoir un effet néfaste. Quoique j'ai regardé à la notation, il y a eu quand même plusieurs records. Là.
Ouais, ouais.
Donc, ce qui est drôlement intéressant.
Puis, je vous pose la question, moi, je ne serai jamais un athlète, je suis tellement loin de ça. Vous êtes capable d'entrer dans la tête d'un athlète. On a entendu plusieurs personnes, plusieurs Canadiens, Canadiennes, là, par exemple, terminer quatrième, donc au pied du podium, mais avec un record, par exemple, un record canadien, et qui étaient contents de ça. Moi, je suis comme, mais voyons, tu peux pas être content. Oui, mais tu voulais sûrement avoir une médaille. Est-ce que vous pensez qu'ils sont vraiment satisfaits de leur performance rendue là?
Ben, moi, je pense que là, à la base, là, quand tu fais une compétition, puis peu importe le milieu, peu importe le domaine, il faut toujours que tu sois capable de répondre à la question suivante, là, qui est simplement, es-tu capable de faire ce que tu es capable de faire? Quand tu vas au-delà de ça, puis tu fais un record personnel, ben, le rend moins d'importance, je veux dire, parce que tu es allé au bout de toi-même. Dans cette perspective-là, ben, on apprend quand même à être satisfait de ça. La déception, bien sûr, dans un événement comme les Olympiques, où on met tellement l'emphase sur les médailles, ben, c'est sûr que tu peux avoir quand même un petit pincement au cœur, parce que quand tu es quatrième, tu aurais aimé avoir être sur le podium, là. Mais d'un point de vue personnel, d'un point de vue de ta satisfaction personnelle, faut que tu sois satisfait, faut que tu sois content, faut que tu sois fier, là. J'écoutais le Penny Oleksiak hier parler, puis elle a 21 ans. De 4 ans, elle avait 17 ans. Puis elle disait, tu sais, nous autres, on est encore jeunes. On va encore poursuivre. Puis il y a encore des bonnes choses là, qui vont se produire pour nous dans le futur. Donc, c'est cette idée-là aussi que le résultat n'est pas une fin en soi.
Exactement.
Il va y avoir autre chose après. Donc, au-delà des médailles, là, puis moi, je trouve toujours ça un petit peu rassurant quand il n'y a pas juste les médailles dans les compétitions sportives, parce que ça nous amène à porter attention à d'autres éléments aussi, parce que c'est pas vrai qu'on fait ça juste pour gagner des médailles, sinon ça n'aurait pas de sens.
Absolument, juste une fois aux 4 ans, vous avez tout à fait raison de le dire. Oui.
Bruno, le point que j'aimerais amener aussi, c'est est-ce que ça se peut que cette espèce de sentiment qu'ont les athlètes qui finissent par exemple 4e, 5e et qui sont très satisfaits, ça peut aussi être un mélange d'émotions parce que la pression de plusieurs années d'entraînement retombe et ils sont peut-être intérieurement, sans trop le comprendre et le savoir, vraiment soulagés de ça. Et ce soulagement, c'est des hormones positive, puis ça se mélange un peu avec la satisfaction, donc sont heureux, puis tout ça c'est parfait, mais ça provient d'autre chose que la fierté d'être quatrième aussi, peut-être?
Oui, ben je pense que tu l'expliques bien, là. Enfin, c'est un mélange d'un ensemble d'éléments, mais je pense aussi que ça souligne l'importance aussi de ne pas juste se centrer sur le résultat, puis la valeur vient pas juste de la médaille, puis la valeur elle vient aussi de la performance que tu as donnée. Puis, tu sais, dans une journée donnée, tu peux être quatrième, puis le lendemain, je veux dire, tu peux être premier. Moi, je me souviens, là, pour avoir travaillé longtemps avec Alexandre Despatie, tu sais, il disait toujours, tu sais, je suis champion du monde une journée, le lendemain, j'aurais pu être quatrième aussi. Puis c'est arrivé aussi dans sa carrière, puis ça arrive à d'autres athlètes aussi. On aimerait juste le faire, tu sais, quand tout le monde nous regarde, ou encore quand on est aux Jeux olympiques, mais c'est pas toujours le cas, mais ça enlève pas la valeur de ce que l'athlète a fait, puis la valeur aussi de ce qu'il est capable de faire.
Bruno Ouellet, je vous remercie énormément de nous avoir éclairé. Vous êtes psychologue sportif. Vraiment, c'est sûr, ça nous permet de comprendre un peu mieux ce qui se passe donc, dans le cerveau des athlètes qu'on voit présentement à Tokyo. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Oui, merci. Là, je vais aller voir André Degrasse.
Exactement, dans une trentaine de minutes.
Merci
beaucoup.
Merci.
Au revoir. Bye-bye.